Bonjour.
Et pour générer de la chaleur constamment dans le matériau qu'on puisse utiliser pour faire un chauffage interne.
À vous lire dans une expérience de
Ouais,
laboratoire.
ouais.
Alors, généralement, ce qui est fait, c'est on ne met pas d'éléments radioactifs.
Oui,
Généralement, ce que
je
l'on
me
fait,
doute.
c'est on part d'un milieu. On le chauffe au départ de manière. Vous prenez votre boîte, vous imposez deux plaques chauffantes en haut et en bas. Donc, vous le chauffez entièrement de façon homogène. Ensuite, vous ne chauffez plus en bas et vous refroidissez en haut. Donc, vous partez d'un système chaud que vous refroidissez. Ça, c'est une manière. Et je crois qu'il y a des tentatives qui ont été faites en mettant des particules et en les chauffant par laser. Mais ça, je ne peux pas vous le garantir. Donc ça, c'est notre méthode. Aussi pour imager.
Mais une réaction chimique exothermique simple, enfin les trucs pour chauffer les
Non,
biberons,
parce
les trucs comme
que
ça marche pas?
ça va varier en fonction de la pression et de la température, ces réactions chimiques. Donc elles ne vont pas se produire de manière homogène. Partout. Un rouleau, oui.
Dans la boîte.
Mmh.
Je présume qu'il s'était isolé sur les quatre côtés.
Il n'y a pas de transfert de matière ni de chaleur. C'est parfaitement isolé sur les côtés.
Alors, comment on peut expliquer la position de ces lignes de convection qui sont perpendiculaires à un côté de la boîte et pourquoi elles ne sont pas perpendiculaires à l'autre côté ou en travers de la boîte?
Je rappelle les rouleaux comme ceci. Je vais peut-être le montrer. Alors, pourquoi est-ce que ici, par exemple sur cette surface-là, c'est perpendiculaire? Pourquoi les isothermes sont perpendiculaires? Pourquoi sur cette surface-là, elles sont aussi perpendiculaires? La raison, c'est la même raison que pour le géoïde et le potentiel de. Pour le géoïde et l'accélération de la gravité. Je n'ai pas de flux de chaleur. Ce que je vous ai montré ce que je vous ai dit pour le géoïde, c'est que G, le champ de gravité, était perpendiculaire à une équipotentielle de ce champ de gravité. Bien, c'est de la même manière pour le flux de chaleur. Le flux de chaleur, c'est proportionnel au gradient de T. Ça va être perpendiculaire. Donc ça, je n'écris rien d'autre qu'un potentiel. C'est perpendiculaire aux valeurs où T est constant. Mon flux de chaleur sur les côtés de ma boîte, il est nul. Les isothermes seront perpendiculaires aux surfaces de ma boîte. Sur les côtés.
Oui, mais pourquoi pas dans l'autre sens alors?
Quel sens?
Bah, comme ça, là, du haut vers le bas, là où vous l'avez fait de
Ah, vous
droite
voulez
vers la
mettre
gauche.
les rouleaux
Oui.
verticalement?
Pourquoi
Parce que
orienter les rouleaux comme
vous ne
ça?
pouvez pas, dans ce cas-là, vous ne pourriez pas transférer la chaleur. Vous feriez.
Non, non, je me suis mal exprimé.
Ah.
Tournez votre schéma là au
Ah,
petit
d'accord, vous
A
voulez que
pour.
je tourne la figure, que les rouleaux se développent dans l'autre sens.
Oui, pourquoi?
Non, alors là, c'est rigoureusement la même chose. Dans mon modèle, il se développe comme ça, mais ça veut dire que j'ai une longueur d'onde dans un sens, mais j'ai autant de probabilité de trouver l'autre. Ce qui est important, c'est j'ai une longueur d'onde. Mais.
Si on a 10 boîtes, il va y en avoir 5 qui vont être dans le est-ouest et 5 qui vont être nord-sud alors. Si les boîtes sont carrées.
Non, si je prends.
Si les boîtes sont rondes, ce serait
Ah
intéressant.
non, si les boîtes sont rondes, oui, c'est totalement différent. Non, non, si les boîtes sont rondes, c'est totalement différent. Non, non, je peux développer un type de longueur d'onde et je vais le trouver comme ça, comme je peux très bien les trouver dans l'autre sens. Je peux trouver une superposition des longueurs d'onde pour des relais différents. En fait, comme je vous ai expliqué, vous avez des domaines de stabilité des différentes longueurs d'onde. Et donc, vous pouvez trouver une superposition de longueurs d'onde perpendiculaires. Vous pouvez trouver le passage de l'un à l'autre qui sont des zigzags instability. Donc, vous pouvez trouver tout ce domaine de stabilité de différentes structures convectives. Oui, si vous les superposez, oui. Vous pouvez trouver. Ça peut visuellement ressembler à cela. Visuellement. Mais là, je ne pouvais pas les trouver dans ces modèles-là parce que je n'ai pas mis les conditions de stabilité pour trouver cela.
Comment est-ce que M. Clapeyron définit sa phase endothermique et exothermique?
C'est juste dans mes modèles, Alors ça, c'est la thermodynamique, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est juste que le changement de phase des PDT, c'est une constante. Et en fonction du signe, je vais dégager ou je vais absorber de la chaleur. Si c'est positif, la réaction chimique va dégager de la chaleur. Si c'est négatif, la réaction va absorber de la chaleur.
Oui, ça je comprends bien, mais alors pourquoi à 670 j'engrange la chaleur et pourquoi à 410 j'en ressors alors,
vous n'avez pas du tout le même type de réaction. L'une, à 410 km de... C'est pas du tout le même type de réaction. À 410 km de profondeur, vous avez juste un réarrangement dans le réseau cristallin. Vous conservez le même nombre d'atomes, ils sont localisés différemment. Généralement, on dit que c'est sous l'effet de la pression et de la température, on réorganise. À 670, vous avez une phase et vous en obtenez deux à la sortie. Vous n'avez pas du tout la même réaction chimique qui se produit.
D'accord. Et vous n'avez pas parlé de Mars, vous allez en parler maintenant ? Je ne sais pas. Vous l'aviez annoncé ?
Si vous l'aviez demandé gentiment. Je vous montre ça si vous voulez. Je ne vais pas vous montrer les modèles de convection, je vais juste vous montrer la topographie de Mars et son géoïde, son champ de gravité. Mars, du point de vue de la convection, on parle beaucoup de Mars actuellement, mais c'est surtout pour ce qui se passe à sa surface, l'eau. Mais pour la convection, ça fait quelque temps que l'on croit savoir ce qui s'y passe. Donc la différence, par exemple, entre Mars, la Terre et Vénus, c'est une planète qui est beaucoup plus petite, avec une gravité beaucoup plus faible. L'idée, c'est que le manteau de Mars, ça va avoir comme épaisseur le manteau supérieur terrestre. Si je regarde un petit peu la topographie et le géoïde de Mars, la topographie, vous avez la fameuse dichotomie entre les deux hémisphères, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez ici cette région dans laquelle vous avez pas mal de volcans. Donc c'est une région où on doit avoir de la fusion partielle, avec Olympus Mons, qui est le plus grand volcan du système solaire. Mais vous avez ici aussi un autre volcan qui est un peu isolé. Quand on regarde le géoïde, on trouve deux magnifiques bosses dessous. On s'attend à trouver un mode 2 de convection, c'est-à-dire deux énormes panaches de convection sur Mars. La question, c'est comment fabriquer ces deux gros panaches de convection. Là, une manière de fabriquer cela en géométrie sphérique, c'est d'imposer les changements de phase endothermique et exothermique, enfin c'est surtout exothermique à 410 km de profondeur, qui va stabiliser la circulation convective et petit à petit, en refroidissant, on se ramène à deux panaches, parce que ce qui est très important, c'est que c'est stable au cours du temps. Et on arrive à stabiliser ces deux panaches au cours du temps dans les modèles. On part d'un système dans lequel il y a plein de panaches, et on se ramène à deux, et ça semble assez stable au cours du temps. Donc voilà juste pour la convection sur Mars. Après tout le reste, l'émission actuelle, c'est en fait essentiellement de la surface. On s'intéresse à l'eau en surface de Mars. L'eau a une importance, je n'en ai pas parlé, mais l'eau s'incorpore dans les phases minérales et ça fait varier énormément, par exemple, la viscosité. Et on arrive à stocker dans le manteau beaucoup d'eau, par exemple. Mais ça, c'est un autre problème.
Et si on réfléchit à la Terre, est-ce qu'on a une trace fossile des anciens panaches en remontant très,
ah,
très
oui,
loin.
Sur...
Est-ce que les panaches sont stables sur la Terre ou est-ce qu'ils ne le sont pas?
C'est assez stable parce que souvent, on prend comme référentiel la position des plumes. Des panaches. Donc, et vous avez les plaques qui se développent, c'est stable par rapport aux plaques. Donc là, j'ai pas de carte, mais vous en avez une qui est sur le site de l'ENS. Enfin, une qui est très célèbre d'ailleurs, c'est le mouvement, la trace laissée par Hawaï, par le panache d'Hawaï, sur la plaque Pacifique, où vous avez cette fameuse figure qui, mes souvenirs sont là, où, si mes souvenirs sont bons, vous avez les traces fossiles des différents volcans, grâce au mouvement de la plaque Pacifique et surtout le changement d'orientation du mouvement de la plaque Pacifique. Donc oui, il y a des traces. Il y a des traces laissées par les anciens volcans, oui, tout à fait.
Et hier, justement, on nous a proposé que ces plumes, ces panaches, soient des queues de phénomènes volcaniques intenses qui ont généré d'abord des immenses plateaux basaltiques qui, en l'occurrence, celui-ci aurait disparu dans la fosse aléoutienne.
Oui.
Donc, on devrait avoir une trace... est-ce qu'on aurait une trace, Tomo, ou une trace chimio de ces plateaux enfouis profonds.
Les plateaux, quand on regarde où sont localisés en profondeur les anomalies de propagation des vitesses des ondes sismiques associées aux zones de subduction, eh bien, quand on regarde le manteau inférieur, on arrive à reconstruire, en regardant l'évolution de la technique des plaques, en remontant dans le passé, on arrive à trouver la trace d'anciennes zones d'anciennes plaques subductantes. Oui, ça c'est cartographié, oui.
Et qui doivent avoir un chimisme, c'est bon.
Oui, ça oui, je suppose que oui.
Comment on peut expliquer que sur Vénus, il n'y ait pas de tectonique ?
Voilà. Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a... La réponse, on ne la connaît pas. L'une des raisons, c'est que... La raison invoquée, c'est que la lithosphère, on va dire la surface, s'est énormément épaissie à cause du refroidissement. Donc on n'a pas pu, la rhéologie ne permet pas, parce que la rhéologie ne permet pas de fabriquer la technique des plaques. L'un des gros enjeux aujourd'hui de la modélisation, c'est d'essayer de comprendre comment on fabrique des plaques. Alors on commence à savoir faire ce genre de choses. Ah zut, je me suis planté. Voilà. Alors, on va faire ça. F9. Donc ça, c'est des modèles dans lesquels on essaye de fabriquer de manière self-consistante des plaques. Ça veut dire quoi ? Le problème de la génération de la technique des plaques sur Terre, et donc ailleurs, pour essayer de comprendre comment ça se fabrique, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qu'il y avait en premier ? La technique des plaques, généralement, ce que l'on dit, c'est que pour générer une zone de subduction, il faut la charger avec des sédiments pour pouvoir casser la plaque. Et ensuite, elle va se mettre en mouvement dessous. Donc, pour charger avec des sédiments, il faut des montagnes. Pour fabriquer des montagnes, il faut la technique des plaques. Qu'est-ce qu'il y avait en premier ? Bien, c'est un problème qui est en réalité un problème de rhéologie, c'est-à-dire comment va varier la viscosité de la plaque et, quand on va l'entraîner par les mouvements de convection. Là, ce que vous avez, donc, c'est des modèles dans lesquels il n'y a que 100% de chauffage interne, et on essaye en surface de faire apparaître des plaques, c'est-à-dire des zones de très forte viscosité séparées par des zones de faible viscosité sur lesquelles on va concentrer dans ces zones très très fines, comme c'est le cas sur Terre, le cisaillement, la convergence, la divergence. Eh bien, vous voyez qu'avec des viscosités variables, et toute la question c'est sur le choix de la viscosité, on va réussir à créer des zones qui sont de forte viscosité, qui sont à la surface des modèles. Et là, ce sont des zones qui sont, encore, ce n'est pas idéal parce que ce sont des zones qui sont trop large et la viscosité, il y a plein d'autres paramètres qu'il faut expliquer, mais c'est un problème actuel que d'essayer de comprendre comment on fabrique des plaques et donc pourquoi il n'y en a pas. La présence d'un milieu poreux ou la présence de fluide va énormément faire changer la rhéologie de la plaque. La température, n'oubliez pas que sur Vénus, la température est très élevée, ça fait changer la rhéologie de ma plaque. La présence d'eau, la croûte océanique est gorgée d'eau. La présence d'eau fait changer la rhéologie de ma plaque. Donc c'est un problème qui n'est pas connu. Sur Vénus, on a l'impression qu'il y a un endroit... Je varie dans quel sens ? Non, je varie dans le mauvais sens. On a l'impression qu'il y a un endroit où on a une zone de subduction avortée. C'est généralement interprété comme tel. Ça serait plus vite si je faisais ça. Et j'allais sur Vénus. Non, je m'en fiche de ça. Où sont mes exemples ? Ah, Vénus 2, c'est là-dessus. Voilà. C'est ce modèle-là. Ici, vous avez une très grande faille. L'hypothèse, c'est que ça pourrait être une zone de subduction avortée. Mais la particularité de Vénus, et j'en ai pas parlé, c'est que, contrairement à la Terre, c'est parce qu'il n'y a pas de technique des plaques en particulier, mais contrairement à la Terre, à cause de la technique des plaques, à cause de la technique des plaques, vous avez un resurfaçage très important. On ne trouve pas sous les océans quelque chose qui soit plus vieux que 200 millions d'années, par exemple. La surface de Vénus, ça n'a rien à voir. Ce sont des âges qui sont compris entre, alors c'est une estimation variable, 400 et 900 millions d'années. Parce qu'il n'y a pas de tectonique des plaques. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Ça, c'est le grand mystère. Y avait-il de la tectonique des plaques qui s'est arrêtée ? Alors, comme la plupart du temps en science, quand on ne sait pas, on invente quelque chose de catastrophique. Donc il y a eu un énorme surfaçage il y a 900 millions d'années, alors que, bon, peut-être que si on avait des rhéologies un peu molles pour la surface, on pourrait peut-être arriver à expliquer pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas de terres plus anciennes que 900 millions d'années. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'avoir un événement catastrophique. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de technique des plaques sur Vénus ? Il n'y a pas de réponse nette et précise à votre question, on ne sait pas. Parce qu'on ne connaît pas très bien comment fonctionne, comment on peut mettre en marche la technique des plaques. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte.
Et enfin, est-ce que les dernières données de Titan vous donnent des idées sur ce corps céleste ?
Non, là, j'ai pas encore. Honnêtement, j'ai pas encore très bien regardé ce qui s'était passé sur Titan et je ne sais pas encore. quelle est la totalité des données. Ce n'est pas encore tout accessible. Donc là, ce qui est intéressant sur Titan, c'est que ça pourrait ressembler à une Terre primitive, à ce qui s'est passé au début sur Terre, avec des conditions qui peuvent être favorables à l'apparition de la vie. Mais ça, c'est pour fabriquer justement des conditions pour que l'on soit capable de fabriquer des très grosses molécules. Mais ça, c'est un autre problème.
Juste au site de la NASA, il y a des informations sur Titan depuis le 30 décembre, oui. Avec des images.
C'est normal,
super.
De faire la concurrence, oui.
Encore une question ?